Bonjour et bienvenue sur le podcast de Contournement. Je m'appelle Alexis et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Soraya Jaber, la cofondatrice de Minsar. Alors vous avez probablement entendu parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, peut-être même que vous avez testé un casque qui vous permet d'entrer dans une de ces réalités telles que l'Oculus Rift. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait créer ce genre d'expérience virtuelle sans écrire une ligne de code ? Probablement pas. Il y a même des chances que toutes ces notions de réalité augmentée ou virtuelle ne soient pas si claires pour vous. Eh bien, on va tout vous dire dans cet épisode. Soraya vous explique en détail comment, avec Minsar, il se propose de faciliter la création de contenu pour ces nouveaux médias et littéralement le web de demain. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Soraya, merci de prendre le temps de cette conversation pour le podcast de Contournement. Alors, tu es la cofondatrice de Minsar, un outil de création d'expériences de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Tu vas nous expliquer un petit peu la différence aussi entre tout ça. Et donc tout ça, évidemment, sans coder, pouvoir créer toutes ces expériences sans avoir à créer une ligne de code grâce à Minsar. Alors, on a eu la chance d'organiser une masterclass de démonstration de votre outil pour la communauté Contournement il y a quelques mois. Oui. Et personnellement, j'ai été assez bluffé. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de retours après très très positifs sur l'outil, sur ce qu'il permettait de faire. Moi, j'ai été assez bluffé par à la fois les possibilités techniques qui sont offerts de vraiment de ce qu'on peut créer et puis la simplicité aussi de création quoi. Et nous vraiment ce qu'on recherche en fait dans le no code, c'est le croisement entre qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil, à quel point il va être puissant dans ce qu'on va permettre de faire et puis à quel point il est accessible pour les gens. Et là-dessus c'était assez impressionnant, donc tu vas nous expliquer un peu comment vous avez réussi à mettre en place tout ça. Voilà, donc je suis très content qu'on ait l'occasion d'échanger ensemble et puis montrer que les technologies no code, c'est pas juste construire des sites web, des plateformes à la Airbnb.
Tout à fait, c'est bien plus que ça.
C'est ça, on va parler vraiment du web de demain. Il y a plein de choses, j'ai écouté un petit peu des conférences où tu as intervenu, il y a des notions de spatial computing que je crois que vous évoquez, des choses comme ça qui sont assez passionnantes, donc tu vas nous raconter tout ça, un peu parler de votre feuille de route, l'aventure entrepreneuriale, enfin voilà, bref, on va évoquer génial. Tout ça dès maintenant. Et avant toute chose, je te propose de commencer par te présenter.
Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup Alexis pour l'invitation. Je suis ravie d'intervenir dans ton podcast. Donc, je m'appelle Soraya Jaber. Comme tu as dit, je suis la cofondatrice avec Thomas, donc Thomas Nigro, de l'application Minsar. L'entreprise s'appelle Opuscope, mais aujourd'hui on communique uniquement sur le produit, donc Minsar, la plateforme. L'aventure entrepreneuriale a commencé été 2015 et la création d'entreprise début 2016. Donc mon parcours, justement, j'ai un parcours vraiment complètement atypique hein, pour le coup. J'étais pas forcément prédestinée à monter une entreprise. Donc moi j'ai fait un bac scientifique option histoire de l'art et à la base je devais faire un peu des études de médecine. C'était un peu la feuille de route qui était tracée pour moi. Voilà, je devais faire médecine et c'est ce que je voulais faire. Et c'est en terminale en fait que je me suis rendu compte que cette option histoire de l'art que je faisais était en fait vraiment ma matière préférée et qu'au final ma véritable passion c'est l'histoire, l'art, la création, la créativité. Et du coup j'ai intégré en fait l'année d'après, donc c'était en 2013, une licence d'histoire de l'art à Paris, en Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, on s'est dit oula, très loin de la création d'entreprise, la gestion d'entreprise ou même des nouvelles technologies. Donc il s'est passé pas mal de choses en fait. En parallèle, je travaillais au musée des arts décoratifs de Paris, donc en job étudiant, surveillance, accueil. Et en fait, moi, j'avais l'habitude d'aller depuis toute petite, toutes les semaines, tous les mois, enfin de façon très régulière, dans des institutions culturelles. Et je me suis rendu compte vraiment au cours de ma licence et en travaillant dans des musées que, en fait, on était vraiment une sorte de d'élite, de vraie minorité. Vu qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est que même pas 10% de la population française se rend plus d'une fois par an dans un musée. Je me suis dit, mon Dieu, il faut vraiment faire quelque chose, il faut que les personnes soient plus sensibilisées à notre patrimoine, à la culture, et même plus que ça, en fait, à la créativité, qui va ensuite déboucher sur Minsar. Et c'est en fait été 2015, du coup, avec mon meilleur ami Thomas, qu'on a eu cette idée, en fait, de réinventer en fait les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Donc, quand je parle de nouvelles technologies, on parlait donc de réalité virtuelle, que je venais de découvrir, réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc l'ambition était double, c'était vraiment sensibiliser un nouveau public, le jeune public aussi, qui est adepte des nouvelles technologies et pas forcément des lieux culturels, et pouvoir enrichir en fait ces institutions culturelles par les nouvelles technologies. Et donc vraiment l'origine en fait de l'entreprise d'Opuscope, c'était ça. C'était vraiment dans un secteur, et on a très vite compris en fait que la problématique c'était pas uniquement un secteur pour l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc la réalité virtuelle, oui, du coup la différence. Qu'est-ce que la réalité virtuelle? Qu'est-ce que la réalité augmentée? On ne sait pas encore forcément bien la différence. En fait, la réalité virtuelle, c'est vraiment le fait d'être en immersion dans un nouvel environnement. Donc on va mettre un casque de réalité virtuelle, et on va pouvoir se balader en fait dans un environnement reconstitué par ordinateur. C'est-à-dire qu'on est coupé de notre environnement. Au contraire, la réalité augmentée, on va aller vraiment augmenter notre environnement, augmenter notre réalité en ajoutant du virtuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupé notre environnement. Donc aujourd'hui, la réalité augmentée qu'on connaît le plus, c'est celle permise par les smartphones et les tablettes, donc avec la caméra qui est allumée et qui va permettre de reconnaître l'environnement pour les appareils vraiment compatibles. On va rentrer un peu plus en technique, mais AirKit, AirCore est donc capable de comprendre l'environnement et d'ajouter du contenu de façon spatialisée. Et on a enfin les paires de lunettes de réalité augmentée ou réalité mixte, un terme peut-être que vous qui nous écoutez avez déjà entendu. Donc la réalité mixte, en fait, je me base souvent sur le spectre en fait de Reality Virtuality Continuum qui a été théorisé en 1994. Hein, donc ça fait un moment maintenant, c'est pas un nouveau terme comme on peut penser. Et en fait, ce spectre va d'une extrémité donc de notre environnement physique, c'est-à-dire réel, perçu, sans technologie. Et l'autre extrémité du spectre, c'est la réalité virtuelle, complètement virtuelle. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé de notre environnement. Et si vous voulez, cet appareil de réalité mixte, c'est un petit peu cet appareil ultime qui, à terme, permettra de couvrir tout ce spectre. C'est-à-dire une paire de lunettes, en fait, qui permettra une totale immersion, qui permettra d'ajouter de plus en plus de virtuel dans l'environnement jusqu'à être en totale immersion. Et aujourd'hui, les prototypes qu'on a sur le marché, c'est le Microsoft HoloLens, le Magic Leap, bientôt les paires de lunettes Enreal. Je ne sais pas si tu connais Alexis.
Ça, j'avoue, je ne connais pas.
Ils ne sont pas encore sortis commercialement. Aujourd'hui, c'est juste un dev kit. Et c'est un petit peu le concurrent, du coup, version chinoise. Donc, c'est une entreprise chinoise qui développe donc sa paire de lunettes de réalité augmentée, réalité mixte. Très prometteur, en sens où le form factor est plus proche du consommateur final. Ça ressemble vraiment à une paire de lunettes simple, où on peut plier les branches. Enfin, c'est assez incroyable. À terme, ça sera connecté du coup à notre smartphone. Et pourquoi aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'appareil de réalité mixte comme il a été théorisé il y a plus de 20 ans, c'est qu'on n'a pas en fait l'immersion totale. Aujourd'hui, les champs de vision vont de 40, 60 degrés et ne permettent pas à l'utilisateur de rentrer en totale immersion dans l'expérience. Il faudrait à peu près 90, 120 degrés pour permettre une totale immersion.
D'accord. Et avoir la possibilité d'être complètement sur ce spectre, d'avoir soit juste des éléments donc, qui se rajoutent sur ce qu'on voit autour de nous, jusqu'à être complètement coupé, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire que dans un sens, ces lunettes par exemple les HoloLens, peut-être qu'on reviendra un petit peu sur le matériel après, mais les HoloLens, on voit toujours à travers, quoi. Alors qu'il faudrait que pour aller au bout du spectre, qu'on voit plus du tout à travers et qu'on soit juste dans un environnement virtuel, si je comprends bien.
C'est ça. En fait, c'est le field of view, donc le champ de vision qui devrait être plus important pour permettre de, par exemple, je sais pas, pour un cas d'utilisation dans l'immobilier. Disons que on est du coup avec notre HoloLens ou autre paire de réalité mixte. On voit la table, on voit notre environnement, on voit les personnes autour de nous. On va aller afficher du coup le parc immobilier, pourquoi pas, je sais pas, le plan de la ville de Paris avec les appartements en vente, en surbrillance. Et en fait, on va pouvoir aller cliquer du coup vraiment avec les gestuels, avec les mains, on va pouvoir aller cliquer sur un bâtiment et cette fois entrer en réalité virtuelle, en immersion dans ce bâtiment. Donc là, c'est typiquement un cas d'utilisation qui permet donc de switcher en fait de cette réalité augmentée, donc cette réalité la salle avec une table, à une réalité complètement virtuelle où cette fois on se balade, on est en immersion dans l'appartement en réalité virtuelle. Donc c'est un appareil en fait qui permettrait de faire les deux. Et c'est cet appareil ultime qui n'est pas encore là, mais qui qui arrivera. Voilà.
Ok. Non, ok, bon, ça, je pense que c'est assez clair. Alors, si on en revient justement à Minsar, ouais. Donc, vous, ça part vraiment de cette idée de produire des choses à destination des institutions culturelles, vraiment une expérience très, enfin, autour de ça, si je comprends bien.
C'est là où on a commencé, exactement, au départ. Ça a très, très vite évolué.
C'est la société Opuscope. Et donc, votre idée à la base, c'était quoi? C'était de faire genre de la prestation pour des musées, je sais pas, enfin, ou alors c'était déjà de faire un outil?
Ça a été très vite, on a très vite fait le pivot de agency vers un SaaS, donc software as a service, logiciel. Donc voilà, immatriculation d'entreprise début 2016. Au départ, du coup, bah, avec nos deux premiers partenaires, donc c'était mon université, Paris 1, et le musée des arts décoratifs où je travaillais. Et en fait, par le statut de Thomas, mon associé, qui est Microsoft Regional Director. Donc en fait, c'est en gros le statut le plus haut de consultant Microsoft, donc Corp, produit. On a pu être justement une des premières entreprises en Europe à avoir les Microsoft OLEDs. Avant Microsoft France. Donc on a pu vraiment commencer à itérer sur l'appareil, à comprendre tout le potentiel, à se dire qu'on est vraiment au tout début de cette techno, et c'est déjà très prometteur, hein, 2015-2016, le Microsoft HoloLens. Et on s'est dit, on a très vite compris qu'au final, les challenges hardware allaient être résolus dans les prochaines années, que tous les constructeurs, tous les gros constructeurs, les GAFAM, travaillaient dessus, investissaient déjà des milliards en R&D chaque année pour ces nouvelles plateformes, que le prochain challenge, qui est à peu près en fait le même challenge qui s'est posé au début des années 2000, c'est que la création de contenu pour ces nouvelles plateformes allait être compliquée et était déjà compliquée à l'époque. C'est-à-dire que en 2015 et encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, si on veut créer une expérience qualitative ou même une petite expérience sur ces nouvelles plateformes, donc nouvelles plateformes, je parle donc des casques de réalité virtuelle, par exemple les Oculus Go, Quest de Facebook, les HTC Vive, les Microsoft HoloLens, donc la paire de lunettes de Microsoft, et tous les autres, Magic Leap, etc. Ça allait nécessiter en fait vraiment de la programmation assez complexe, assez poussée. Il faut être développeur 3D, pas développeur web. Donc c'est vraiment de mathématiques et de la physique assez poussée qui fait que au final l'expérience, une fois qu'elle est réalisée, coûte cher. Ça coûte cher à produire. Ça coûte cher, ça prend du temps, et on n'a pas de on n'avait pas à l'époque, et c'est vraiment, c'est pour ça que très rapidement, on a compris, en fait, que ce potentiel, cette technologie, elle n'allait pas être utile uniquement à un secteur. Évidemment, la plus-value est absolument incroyable dans le secteur culturel, dans le tourisme, mais au final, les mécaniques derrière, qui sont des mécaniques de jeux vidéo, hein, c'est emprunt aux jeux vidéo, et pour créer ces expériences de réalité virtuelle, réalité augmentée, aujourd'hui, on utilise des moteurs 3D, on utilise Unity 3D, on utilise Unreal Engine, qui sont, des moteurs 3D de jeux vidéo. Donc complexe à créer des expériences dessus, et on a voulu on a compris qu'au final les mécaniques derrière pour mettre en avant par exemple une salle muséale, c'était exactement la même chose dans le retail. Au final, mettre en avant une statue, c'est la même chose derrière si on veut mettre en avant une voiture. On va aller rajouter des informations contextuelles, rajouter des vidéos, des points d'intérêt qui vont permettre de créer une expérience engageante, immersive pour l'utilisateur final. Et donc, 2016, on avait commencé le secteur culturel. En fait, très rapidement, justement, parce qu'on s'est positionné un petit peu comme référent en réalité mixte en France, vu qu'on avait les Microsoft HoloLens et tous les autres appareils, et une belle équipe, on a commencé du coup à faire du consulting, en fait, pour les grands groupes, pour les corps enseignants, que ce soit l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne ou autre. Et pour permettre de comprendre en fait en quoi ces nouvelles technologies allaient permettre de être un petit peu la next step en fait, peu importe le secteur, que ce soit dans l'éducation, parce qu'au final les études montrent en fait que quand on vit une expérience de réalité virtuelle, ça s'enregistre comme un souvenir que l'on a vécu. Donc ça permet une mémorisation beaucoup plus importante, hein, ça permet vraiment de mieux mémoriser tes cours, de mieux mémoriser une expérience. Donc la portée pédagogique est absolument incroyable. Donc premier point, culture éducation dans l'immobilier, permettre de, et là on l'a vu avec le Covid également, permettre de la Covid, c'est du mal à le dire, de visiter des parcs immobiliers en réalité virtuelle de chez soi. Au final, tout le monde est enfermé de chez soi. Les cas d'utilisation sont absolument incroyables. Et on a compris dès 2016 Et on avait vraiment voilà des clients qui venaient de un peu partout, qui souhaitaient utiliser ces technos dans leur core business. Et on s'est rendu compte que bah au final, nous le moteur qu'on avait commencé à développer en interne pour créer facilement ces expériences pour nos clients, on s'est dit mais autant en faire une solution clé en main pour nos clients. Parce qu'au final, ils demandaient à peu près tous la même chose. C'était les mêmes mécaniques derrière. C'était permettre d'importer différents types de contenus, hein, tu vois, des vidéos, du son, du texte, des modèles 3D, et pouvoir animer le tout pour créer une expérience, que ce soit retail, tu vois, faire ta boutique en ligne de chaussures, proposer directement depuis ton site internet, de visualiser les produits en 3D voilà, d'acheter des animations, etc. Et c'est là qu'on a commencé, donc été 2016, à développer la plateforme qui s'appelait à l'époque Holostoria, mais je vais arrêter de vous perdre avec tous les noms, c'est Minsar. Pour retenir un mot maintenant, c'est Minsar. Et voilà, et à l'époque uniquement sur Microsoft HoloLens, mais on avait dès le départ l'ambition d'être vraiment cross-platform, et on savait que justement il fallait pas être locké dans un écosystème, être enfermé dans un écosystème, vu que c'était déjà la stratégie en fait des GAFAM, hein, qui aujourd'hui voilà commencent à développer aussi leurs outils de création, mais uniquement sur leur écosystème, et qu'il fallait une plateforme vraiment cross-platform, disponible sur l'ensemble de l'écosystème, pour permettre justement notre mission, hein, c'est ça chez Minsar, c'est d'accélérer la transition vers cette informatique spatialisée, donc un informatique vraiment une informatique complètement différente de tout ce que l'on a connu depuis ces dernières décennies, qui est vraiment voilà l'informatique qui permet de comprendre l'environnement et d'aller interagir avec, de placer du contenu de façon contextuelle, de façon intelligente, qui va vraiment voilà comprendre cet environnement et placer de l'information contextuelle. Et donc nous voilà, c'est accélérer cette transition vers cette informatique en fournissant les meilleurs outils pour les créatifs professionnels, les professionnels de la créativité, pour leur permettre de créer et distribuer leurs expériences, leurs projets sur ces nouvelles plateformes. Donc ça, c'est vraiment la mission de Minsar qu'on a commencé donc été 2016. Parce que c'est très long à développer.
Ouais, non, j'imagine. Après, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Mais ce que je note qui est hyper intéressant, c'est que vous avez, il y a quand même plusieurs histoires comme ça d'éditeurs où à la base ils ont créé un produit pour eux, pour l'utiliser eux, pour faire des prestations, pour faire des choses, et puis finalement ils se sont rendu compte que c'est ce qu'ils avaient créé qui avait le plus de valeur et que pouvaient en faire un outil qui soit utilisable pour tout le monde. C'est hyper intéressant, et cet enjeu du contenu, je pense que les gens le réalisent pas forcément, mais c'est vrai que on parle quand même de ces technologies de réalité virtuelle augmentée et tout, alors des fois un peu à tort et à travers, mais quand même ça fait quelques années qu'on en parle. Et on en revient toujours un peu à ce truc de « mais pourquoi ça n'a pas encore explosé ? Pourquoi on n'est pas tous avec des casques en train de se balader dans la rue ?» Et souvent, le truc qui revient, comme tu dis, le matériel, il est prêt, globalement. Il va encore évoluer, il va être de plus en plus léger,
complètement,
de plus en plus
il est accessible
autonome.
Aujourd'hui.
Mais globalement, il existe, alors que le contenu, il y en a encore assez peu. Et exactement, c'est vrai qu'une des barrières à l'entrée, clairement, c'est ce que vous essayez de résoudre, c'est la création de ce contenu. Et il y a un parallèle très intéressant, j'ai vu en fait dans une conférence où tu étais intervenu, où tu disais, ou je crois que c'est la personne qui t'interviewait d'ailleurs, disait ça, que vous étiez un peu le WordPress de la réalité virtuelle.
Oui, tout à fait.
Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'après, quand t'expliquais, c'est vrai que c'est le même enjeu, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je considère, et beaucoup de gens considèrent comme vous, que c'est un médium du futur, enfin, qui commence de cette autre réalité, tout comme le web l'a été depuis les années 90, et dans les années 2000, tout le monde a commencé à avoir accès au web, par contre, avait accès en lecture, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on pouvait consulter le web, par contre, très peu de gens pouvaient produire des sites, mettre des choses en ligne, c'était compliqué. Enfin, moi, je suis développeur, j'ai commencé à apprendre justement dans ces années-là, et WordPress a un peu résolu ça, quoi. Après, je trouve que c'est une comparaison, sans faire le nerd du no-code, mais enfin, ce que je suis, hein, malgré tout. Je trouve que c'est une comparaison qui est un peu dommage aujourd'hui parce que c'est plus un outil. Moi, je trouve que la facilité d'utilisation de Minsar, et après, on va justement finir à l'outil, s'approche beaucoup plus des outils no-code d'aujourd'hui. Des outils comme Adalo, comme Glide, éditeurs connaissent. Ouais. Vraiment, je trouve que ça serait une comparaison plus valorisante pour vous.
Ouais, mais tout à fait.
L'ergonomie que vous apportez, quoi.
Tout à fait. En fait, le bon parallèle, c'est un petit peu le mix des deux, dans le sens où un Wix, un Webflow n'a pas créé cette révolution de CMS et de création no-code comme l'a fait WordPress. WordPress, il est arrivé en 2003, ça a complètement révolutionné en fait la création sur le web. Et nous, MINSA, notre positionnement, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas encore de CMS no-code immersif, 3D, pour ces nouvelles plateformes. Aujourd'hui, c'est vraiment complexe de créer des expériences, ou alors il y en a en réalité virtuelle, mais pas encore en réalité augmentée. Mais pour le coup, en termes de expérience utilisateur et user interface également, on l'a mis au cœur en fait du développement dès 2016. Donc vraiment, ça a été un de nos trois premiers développements. C'est donc Nexper UX, qui est aujourd'hui donc notre directrice du design, Alexia Beuclé. Parce qu'on a mis vraiment au centre en fait du produit l'expérience utilisateur. On a compris que, et de toute façon, on le savait, qu'il fallait un outil très simple d'utilisation. Un outil qui va reprendre aussi les dogmes de création de la 2D, mais que l'on allait transposer en 3D. Et il y avait un petit peu rien à l'époque, dans le sens où les outils aujourd'hui, même pour créer de la 3D, sont 2D. Et ça, pour nous, c'est un non-sens complet, en fait. Tu vois, créer une expérience 3D doit être fait en 3D. On doit pouvoir vivre en fait l'expérience, voir le résultat final, et c'est ce qu'on permet de faire du coup avec MINSAR. Mais c'est vrai que ergonomiquement parlant, on ressemble plus à un Webflow, à un Wix qu'on adore d'ailleurs, qu'on utilise. Hein, MINSAR a été fait avec avec Webflow, le site internet de MINSAR. Et moi, pour le coup, je suis pas du tout programmateur. Je ne dev pas. Et moi, j'utilisais WordPress. Pendant mes études, j'ai longtemps utilisé, je trouvais ça incroyable. J'avais un petit peu, tu vois, ce pouvoir de me dire, bon, j'ai pas à apprendre à coder. Je peux apprendre plein d'autres choses, parce que je suis passionné de plein de choses, soit le business, l'art, la culture, les nouvelles technologies, la médecine, c'était ce que je devais faire, de base. Et justement, en utilisant WordPress, je me disais, mais waouh, j'arrive à faire des trucs quand même assez cool, sur le web, sans avoir à coder. Même si aujourd'hui, c'est plus très vrai, il y a quand même pas mal de, notion de code aussi, voilà, pour customiser, mais j'arrivais quand même à faire des choses assez sympas. Donc, j'étais contente. Et c'est un petit peu ce que l'on voit c'est dingue, dans les yeux de nos utilisateurs, où on voit un petit peu qu'ils nous disent, je me sens puissant. Parce que, en fait, que ce soit, tu vois, un graphiste, un designer 3D qui modélise, en fait, des assets, mais à chaque fois, aujourd'hui, la barrière du code. C'est-à-dire que soit il doit, lui, monter en compétences techniques, apprendre à maîtriser, des outils 3D, ou des outils web, par exemple Amazon Summerian, qui permet aussi de créer des petites expériences 3D sans être développeur 3D. Mais voilà, il y a toujours cette barrière du code. Et donc, soit il monte en compétences, soit il passe du coup par un développeur. Et donc, c'est une collaboration pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Et souvent, on me ramène les pain points pour le pire. Et justement, leur mettre MINSAR dans les mains, c'est... Ça y est, ils ont accès directement à leurs assets, à leurs éléments, et ils peuvent créer en fait, aller de l'idée à la publication. En fait, c'est ça, et pouvoir le faire très rapidement. Donc là, c'est bien, t'as pu voir un peu avec la masterclass, mais on a encore plein de fonctionnalités qui arrivent. Et voilà, c'est rendre en fait autonome les créatifs dans cette mouvance du no-code qui est pour moi clairement, l'avenir de la création, de la créativité informatique, mais et nous on s'inscrit du coup dans le mix en fait de cette mouvance no code pour les plateformes de demain, pour les plateformes qui sont déjà là, qui sont prêtes.
Justement, j'ai envie de dire vraiment, quand on a parlé de WordPress, on a parlé du web, on va dire classique, desktop sur un ordi. Aujourd'hui, on est un peu de notre point de vue là. Aujourd'hui, ce qui est devenu vraiment accessible, c'est le mobile, qui est un autre média avec des outils comme Glide, Adalo, où il y a une nouvelle proposition de paradigme, j'ai envie de dire, pour réaliser cette appli de manière très accessible, les déployer sur les stores de manière très accessible. Et vous êtes dans la continuité de ça, c'est-à-dire c'est le prochain médium, le prochain, c'est les casques, c'est cette nouvelle réalité. Et vous proposez aussi vous-même votre vision. Et ça, j'ai envie vraiment que tu l'expliques. Parce que je pense que les gens réalisent pas forcément quand tu dis on crée l'expérience en 3D. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément bien compris aussi au début et que j'ai trouvé vraiment bluffant. Oui. Et donc je pense que le mieux à ce stade c'est d'expliquer un petit peu. J'inviterai vraiment les gens à regarder la masterclass, mais si tu peux résumer en quelques mots comment ça se passe, genre moi j'arrive, ok, j'ai écouté le podcast et je veux faire une petite expérience dans MINSAR, comment ça se passe et quelles sont les manières de faire, quoi.
Ouais, bien sûr. En fait, dans cette mission d'accélérer la transition, on a compris avec le temps que ça allait se faire par étapes. C'est-à-dire qu'en 2016, on a commencé donc à développer MINSAR sur les plateformes immersives. Donc, à l'époque, donc, c'était Microsoft et HoloLens. Et on pensait que dans 5 ans, en 2020, il y aurait des paires de lunettes un peu partout. Hein, et bon, ça prend plus de temps que prévu. C'est toujours un peu plus long. Enfin, c'est compliqué, c'est du hardware. Et en fait, on a voulu, dès le départ, exploiter en fait au maximum les capacités de ces nouvelles plateformes. Dans le sens où, par exemple, un Microsoft HoloLens, un Magic Leap, permet en fait un tracking des mains, donc le hand tracking, de pouvoir du coup utiliser en fait, comment expliquer ? En fait, on utilise vraiment voilà toutes les tout le potentiel technique d'une nouvelle plateforme, le scan de l'environnement, donc le spatial mapping, pour pouvoir créer à même la plateforme. Donc, comment ça se traduit ? Par exemple, bah, on met une paire de lunettes, on met un casque de réalité virtuelle. Et on va pouvoir, soit en utilisant donc les manettes du casque, soit en utilisant les mains pour voilà faire de lunettes, on va pouvoir importer du contenu, son propre contenu. Donc c'est ça en fait vraiment l'avantage avec Mixer, c'est que c'est de l'import 3D temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer du contenu depuis les banques, soit les banques de modèles 3D comme un Sketchfab, soit depuis vos asset providers, donc vos par exemple Google Drive, Dropbox, et permettre d'importer du contenu existant. Donc, c'est important de comprendre que Mixer ne permet pas de créer du contenu, mais permet de créer une expérience. C'est pour ça l'analogie avec WordPress, un PowerPoint. Souvent, ça c'était souvent ouais, plutôt les journalistes qui parlaient de PowerPoint, parce qu'au final, mais je trouve que c'est une bonne analogie aussi, PowerPoint, dans le sens où PowerPoint ne permet pas de créer une photo, une vidéo, mais ça permet de créer une présentation à partir de contenu existant. Nous, c'est la même chose, mais plutôt qu'avoir un deck 2D, en fait, c'est notre environnement qui va être notre deck, qui va être notre support. Et on va aller du coup exploiter tout cet environnement par des algos de reconnaissance de l'environnement, par reconnaissance donc de l'environnement, mais également des objets, d'une table. On a différents types d'ancrage d'éléments dans l'environnement. Donc, par exemple, le Surface Anchor qui va permettre de reconnaître s'il y a une table ou un mur et de du coup spawner une expérience en fait sur la table ou le mur. On a ce qu'on appelle aussi les Spatial Anchors qui sont du coup les ancres spatialisés qui vont permettre cette fois de reconnaître, de mapper tout un environnement, par exemple dans la rue, permettre de reconnaître voilà les immeubles, les boutiques, et quand on ouvre une expérience, que ce soit par exemple avec son smartphone, on va pouvoir afficher en fait les éléments de façon voilà contextuelle à l'environnement. Il va reconnaître en fait si je vois en face de moi il y a Monoprix, ben voilà, il va reconnaître qu'il y a Monoprix, il va te dire les promos du jour, enfin voilà. Après c'est au créatif d'imaginer l'expérience, le branding. Et enfin la troisième, enfin il y en a quatre, il y a la simple encore, mais et la quatrième système d'encre, c'est l'image encore. Donc cette fois c'est tracking d'une image, d'une affiche, d'une carte de visite, d'un flyer, et donc de positionner une expérience par rapport à cette image. Mais tout ça, enfin je vous invite à visualiser la masterclass de réaliser donc avec.
C'est
avec
pas évident, hein, c'est un vrai challenge hein, le podcast pour expliquer des choses comme ça qui sont aussi visuelles. C'est le cas dans tous outils dont on parle. Et là, je pense que vous, c'est le summum, tu vois. C'est tellement visuel que c'est non, tout c'est se clair, passe c'est vraiment dans l'espace littéralement quoi.
Ouais, mais c'est vraiment tout l'espace. Il faut se dire que on a le web responsive, on a l'informatique responsive qui permet d'afficher en fait du contenu de façon relative à un écran, à la taille d'un écran. Nous, ce qu'on fait aussi avec Mixer, et ce qu'on aura dans les prochaines versions, c'est ce qu'on appelle un peu le world responsive. Dans le sens où, en fait, une expérience qui a été créée pour telle boutique de X marque connue et qui veut déployer, en fait, cette expérience immersive dans tous ses stores. On travaille, du coup, sur des algos de reconnaissance, en fait, de boutiques, d'agences pour, en fait, ouvrir une expérience de façon relative à la salle, à la taille, en fait, de la boutique, de l'agence. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, voilà, plutôt que avoir une expérience relative à un écran, ce sera relative à notre espace, à ce qui nous entoure. Donc, il va comprendre que la table est plus grande, donc je vais afficher l'expérience de façon un peu plus grande. Il y a plus de murs, du coup, je vais placer plus d'éléments. Voilà. Et tout ça, du coup, est vraiment relatif à cette informatique spatialisée. On a reconnaissance de l'environnement et mais c'est passionnant. Enfin, c'est le défi et les challenges des prochaines décennies. Et voilà. Et on est parti.
Juste pour préciser pour les gens là, s'il y a des gens qui après avoir écouté le podcast, aller par exemple sur leur téléphone télécharger Mixer Studio. enfin vraiment ouais. L'outil qui permet de créer les expériences, ils peuvent le faire aussi sans casque. En fait, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est ça qu'on voit dans la, voilà, dans la masterclass, c'est-à-dire que Maëlys, donc, qui a animé cette masterclass, faisait tout ça avec une tablette. Ce que les gens voyaient, c'était une tablette. Donc, techniquement, c'était pour elle en 2D, mais tout ce qu'on voyait à travers la tablette était en 3D. Mais ce qui était difficile à montrer dans la masterclass, mais que vous proposez, c'est qu'elle aurait pu porter un casque HoloLens et faire toutes les manipulations avec ses mains. Et là, vraiment, bah là, on n'est plus sur un écran en tablette, on est vraiment... Et ça, j'ai trouvé ça très, très impressionnant, parce que c'est pas que vivre l'expérience qu'on peut faire en 3D, c'est la créer aussi.
Exactement, c'est la créer et c'est la rouvrir en fait sur notre plateforme. Et c'est ensuite permettre de la distribuer sur toutes ces plateformes. Donc juste pour revenir à ce que je disais, voilà, 2016, on est persuadé que la création 3D doit se faire en 3D. On n'a pas encore conscience, enfin voilà, on était très jeunes, hein, Thomas et moi, on a monté l'entreprise à 19-20 ans. Et voilà, on s'est dit, tout va aller vite, on a déjà le HoloLens, c'est incroyable, on est en 2015, d'ici 5 ans, mais ça va être incroyable, tout le monde aura sa paire de lunettes, Apple va sortir son appareil, enfin voilà, tout le monde, il y aura des appareils un peu partout. C'est pas encore complètement le cas, ça va prendre un peu plus de temps. Mais au final, c'est pas plus mal, dans le sens où en fait, ce sera transitoire. Et c'est ce qu'on a commencé du coup à faire en 2018. On a compris que voilà, ça allait prendre plus de temps pour que chacun ait sa propre paire de lunettes en fait, et que ça allait passer par le mobile, par le smartphone, et que le marché était déjà là, que les frameworks en fait de réalité augmentée sur les smartphones, tablettes étaient de plus en plus performants. Donc là, c'était à l'époque du, moi je sais plus c'était quelle série, donc iOS, mais voilà, aujourd'hui, enfin on a avec plus maintenant les capteurs lidar sur iOS, on a une super réalité augmentée permise donc par les smartphones, et bah justement le marché, la population est équipée déjà de ces appareils. Donc, on a compris, en fait, que ça allait être essentiel de développer aussi une version de l'INSAR sur ces plateformes, de rendre accessible la création et la distribution. Et au départ, on l'a fait pour la distribution. On a itéré, du coup, avec nos partenaires. Et clairement, enfin, la création à partir d'un casque est tellement plus simple et tellement plus immersive et intuitive, dans le sens où, en fait, ce que l'on perd avec un smartphone ou une tablette, on perd la 3D, on perd la profondeur. Hein. C'est plus un élément, c'est plus un Red Mountain Display. On a du coup, c'est un écran 2D qui exploite du coup la caméra et des algos pour comprendre l'environnement et créer une expérience 3D sur un écran 2D. Donc, c'est plus compliqué d'appréhender les distances. Et donc, la création, donc la manipulation, l'import des assets et la manipulation dans l'environnement se fait de façon beaucoup plus naturelle en 3D. Parce que du coup, c'est directement avec nos yeux. Mais pour la distribution, pour visualiser l'expérience, bah, c'est hyper intéressant de pouvoir la distribuer sur les smartphones et les tablettes pour permettre justement au plus grand nombre, à l'aide d'un QR code, à l'aide de reconnaissance d'une image, d'un environnement, d'ouvrir une expérience de réalité augmentée. Et donc, c'est en 2018 qu'on a commencé du coup avec nos partenaires en fait à développer une version pour iOS et Android. Et c'est ça en fait qui est absolument incroyable avec Minsar, c'est que quand tu commences à créer Maëlys par exemple pendant sa masterclass qui crée du coup sur un iPad, et ben après elle a pu rouvrir son expérience sur un Microsoft HoloLens ou sur un Magic Leap et continuer à éditer l'expérience. En fait, ce qu'on permet de faire, c'est créer l'expérience une fois et la déployer n'importe où et la rouvrir n'importe où. Parce que c'est voilà, on a eu plusieurs clients utilisateurs qui par exemple dans le secteur immobilier, de l'immobilier, qui déploient en fait toutes leurs expériences sur le HoloLens 1. Et quand il y a le HoloLens 2 qui sort, et ils veulent du coup proposer leur expérience, leur parc immobilier sur ce nouvel appareil. Mais en fait, l'agence à qui sont allés voir pour créer cette expérience, l'agence est obligée de refaire en fait l'expérience pour HoloLens 2. Pas refaire complètement, mais ça nécessite des nouveaux développements. Et c'est pareil, et encore pire, si on veut passer, tu vois, d'un Microsoft HoloLens à un Oculus. Qui est un Oculus, en plus, un casque de réalité virtuelle. Mais par exemple, Magic Leap, qui est le concurrent direct de Microsoft HoloLens. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà testé.
Si, alors j'ai jamais testé, mais ça fait longtemps qu'on en entend parler. Enfin, moi, honnêtement, à ce stade, je savais même pas si c'était déjà sorti ou pas Magic Leap, parce qu'on en parle un peu aussi comme un produit. Ouais. On sait pas s'il va finir par sortir un jour.
Il est sorti. C'était plus un proto que version commercial, il y a eu bon quelques petits couacs.
A priori, c'était un peu décevant par rapport à la promesse qui était vraiment le côté magique. Mais
bon, ce sera mieux dans les prochaines années. Voilà, mais que ce soit en Magic Leap ou en Oculus, quand on crée son expérience, un créatif, il a envie de pouvoir partager son expérience un peu partout. C'est ce qu'il peut faire aujourd'hui quand il crée une vidéo, il va pouvoir la partager un petit peu partout, un site web, parce qu'on a des standards. Parce que,
c'est un peu la même chose avec le mobile. Exactement. Quand on fait une application mobile, on a envie de pouvoir qu'elle soit et sur l'App Store et sur le Play Store de Google. Et dans le mobile, on a de la chance dans le sens qu'il y a une espèce de convergence et que, que deux plateformes. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus tôt dans l'histoire de la réalité augmentée. Donc, comme tu dis, il y a une grosse fragmentation. Il y a peut-être sûrement des standards qui vont apparaître ou il y a aussi des boîtes qui vont disparaître. Enfin, plein de choses qui vont bouger. Quoi.
Oui, complètement. Ça s'active, que ce soit trouver des standards en fait, au niveau de la création, de la programmation, OpenXR par exemple, ou au niveau aussi du développement, donc avec WebXR, qui est du coup le consortium web, mais pour permettre de cette fois ouvrir une expérience de réalité augmentée ou réalité virtuelle directement sur le web. Ça avance, les strates, ça avance, c'est pas encore déployé. Et justement, Minsar, on va permettre aussi d'exporter vers le web. Donc ça, on travaille dessus et on devrait avoir, d'ici la rentrée, un premier export vers le web. Parce qu'en fait, pour nous, depuis le début, la création et la distribution vont de pair. En fait, c'est très bien de permettre de créer facilement une expérience, mais si au final, on peut pas la distribuer, ça a peu d'intérêt. Donc, on a commencé aussi à développer XR View, qui est du coup une visionneuse d'expérience XR, disponible sur pareil toutes les plateformes, donc iOS, Android, mais également HoloLens, Magic Leap, Oculus et Unreal. Aujourd'hui, c'est toutes les plateformes donc on va pouvoir supporter. Et voilà, la mission et l'ambition, c'est vraiment tu crées ton expérience sur une plateforme et t'as pas ensuite à redévelopper, à recréer pour une autre plateforme parce que on assume Minsar en interne la complexité technique de unification en fait, de unifier ces différentes briques techno pour permettre de que ce soit en fait transparent vraiment pour l'utilisateur final, pour le créateur, le créatif, pour qu'il puisse.
J'ai quelques questions. Je pense qu'on a pas mal compris là, fait le tour du truc. Je pense que c'était clair. J'espère que les gens qui écouteront aussi trouveront ça aussi clair.
Le mieux,
encore
c'est
une fois, je renvoie à la. C'est exactement. Ça. À la fois voir la masterclass. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir sans être tout seul face à son application. Et puis après d'essayer de créer une petite expérience. Ça reste toujours le meilleur moyen.
Vu qu'on est disponible sur smartphone, sur iOS, sur Android, nombreux appareils qui sont compatibles maintenant. Réalité augmentée.
Et alors, justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des quelques use cases alors, t'en as mentionné pas mal au début, mais des choses vraiment concrètes, des exemples, si tu peux en citer, de vos utilisateurs, de gens qui ont fait des trucs chouettes, à la fois des choses intéressantes, impressionnantes, peut-être toi-même, quelle est ton expérience préférée dans tout ce que tu as vu?
Je suis toujours surprise par l'imagination de nos utilisateurs, des verticales secteurs qu'on n'avait pas du tout pensé. Et au final, on voit qu'il y a un intérêt. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour la partie prototyping. En fait, Minsar, aujourd'hui, c'est la meilleure plateforme pour prototyper une expérience plus complexe de réalité augmentée ou réalité virtuelle. Dans le sens où, rien que la semaine dernière, par exemple, on a vu qu'il y a une personne qui s'est créé un compte et qui a publié sa première expérience au bout de 5 minutes. C'est dingue de se dire en 5 minutes, tu peux aller de la création de ton compte à la publication. Alors que, aujourd'hui, quand tu veux vraiment créer une expérience et que tu utilises Unity ou Unreal, rien que les temps de compilation sont tellement longs que, c'est impossible de faire ça en quelques dizaines de minutes. En termes de use case, un des derniers, parce que nous, pour le coup, niveau timing, c'est un peu mal tombé. La levée de fonds est très bien tombée parce qu'on a levé, du coup, 3 millions en fin d'année dernière. Donc, juste avant ces différentes crises, c'était un très, très bon timing. Par contre, la commercialisation au mois de mars, mauvais timing du coup. Donc, on a eu pas mal de contrats annulés ou décalés. Mais juste avant, justement, une semaine avant le confinement, une des dernières expériences publiques qu'il y avait eu avec Minsar, c'était avec un de nos clients qui s'appelle Miyume. Je ne sais pas si tu connais, mais en fait, ce sont les leaders du packaging cosmétique. En gros, ils créent, les flacons le packaging pour les flacons de parfum, pour ils bossent avec L'Oréal, avec Sephora, etc. Et ils utilisent en fait Minsar pour créer en fait un packaging plus immersif, en réalité augmentée. Donc par exemple avoir la boîte en fait du flacon ou même un flacon et reconnaître du coup la marque et afficher une expérience de réalité augmentée. Et voilà, donc c'était je crois début mars qu'ils avaient fait pendant une semaine une expérience du coup avec Minsar, enfin plusieurs petites expériences pour proposer à leurs clients. Ça, c'était vraiment assez sympa, il y avait des superbes expériences qui avaient été proposées. En ce moment même, il y a donc c'est avec Invaluable et Sotheby's. Je sais pas si tu connais Invaluable, qui est du coup la plus grande marketplace de comment on appelle ça, auction,
de vente aux enchères.
Exactement, voilà, de vente aux enchères. Et là, en fait, ils utilisent du coup Minsar pour proposer cette fois donc les éléments en vente en 3D directement depuis le site web. Donc ça, c'est en ce moment. Quoi d'autre? Non, il y a eu pas mal d'expériences. Moi, j'aime beaucoup dans l'éducation, hein, dès que c'est un apport, ou dans la culture, dès que ça te permet d'apprendre des choses, c'est hyper intéressant.
Quand tu disais qu'il y avait des choses surprenantes, des fois, est-ce que tu as un exemple? Quelque chose qui vous a surpris?
Oui, mais au final, au début, ça m'a surpris, mais en fait, je me suis dit, c'est tellement évident. Des développeurs qui utilisent Minsar pour prototyper sur une nouvelle fonctionnalité, que ce soit en interne ou d'autres développeurs, j'ai déjà vu utiliser Minsar pour créer, vraiment pour l'aspect prototype, prototypage de fonctionnalités qui seront ensuite développées. Et moi, de toute façon, j'ai jamais opposé les développeurs et les créatifs, parce qu'au final, hackers and painters, les mêmes sont des personnes qui, avec l'imagination, c'est juste le médium qui change. Je pense, Minsar sera à terme peut-être autant utilisé par les développeurs que les créatifs, comme on voit aujourd'hui, des CMS qui sont aussi utilisés par les développeurs.
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les outils no-code, effectivement, même des développeurs. C'est mon cas, par exemple, mais faire quelque chose rapidement avec un outil no-code pour voir un petit peu sa validité,
exactement.
Plutôt que de le coder, d'y passer du temps, etc. Des fois, on peut aller vite, on peut voir ce que ça rend, ce que ça donne, et puis après,
Et justement sur ça, on aura un SDK du coup de Minsar qui va sortir aussi plutôt à l'automne, parce qu'on est on est déjà juillet. Je me perds complètement avec les mois, avec le confinement, on est déjà mi-juillet, c'est incroyable. Du coup, à l'automne, on aura un SDK donc de Minsar pour justement permettre aux développeurs d'utiliser la plateforme et de l'intégrer dans leur solution.
Donc, c'est d'accord.
Une plateforme assez complexe.
C'est intéressant aussi pour répondre à l'usage de l'outil.
Exactement.
Ok, alors j'avais une autre question où je me demandais un petit peu comment vous faisiez pour consulter, écouter justement vos utilisateurs et voir un peu comment est-ce que vous prenez en compte les feedbacks, un peu quels sont vos process par rapport à ça.
Oui, on fait pas mal que ce soit des tests utilisateurs ou des feedbacks directement. On communique beaucoup avec nos utilisateurs depuis le début. C'est comme ça qu'on a pu orienter un peu la roadmap, prioriser telle ou telle fonctionnalité. On fait passer des formulaires à nos utilisateurs, à ceux qui le souhaitent. Là, je sais qu'il y a un prochain test utilisateur qui va être organisé dans pas très longtemps. Ça a été un peu compliqué du coup avec le confinement. Ouais, parce qu'on préfère du coup faire en physique les tests utilisateurs pour bien voir en fait comment ils appréhendent les fonctionnalités, leurs réactions, etc. Donc pendant le confinement et puis là pendant ces périodes un peu transitoires, on fait du coup plutôt des formulaires en ligne, et on est très à l'écoute. On fait beaucoup de démos. On a d'ailleurs, je vous invite, ceux qui nous écoutent, une fois que vous avez pris en main Minsar et si vous avez des questions, etc., à booker une démo avec Edmond, notre super Edmond, qui est donc notre head of sales. Et en fait, on prend plein de notes à chaque fois pendant ces démos. On essaie de comprendre depuis le début. En fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des démos, qu'on écoute nos utilisateurs. Et ce qui est hyper intéressant et hyper enrichissant, c'est qu'on n'est pas dans une verticale secteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'industrie, comme beaucoup de solutions. On n'est pas uniquement dans le retail. Et justement, ça nous permet d'avoir une richesse de retour et de comprendre au final. Et ça qui est assez incroyable, c'est que des utilisateurs dans la culture, ils veulent les mêmes fonctionnalités que un utilisateur dans le retail qui veut promouvoir en fait sa boutique de chaussures ou autre. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti et qui est aussi risqué, enfin dans le sens où ça prend beaucoup de temps à développer une plateforme horizontale, de pas rester dans un secteur, mais de permettre en fait d'avoir les fonctionnalités qui seront utiles pour plusieurs secteurs.
Ça enrichit chaque secteur, enrichit un peu, enfin les retours d'expérience, les use cases, vont enrichir un peu tout le monde au final, quoi.
Exactement.
Donc on est tous et même les choses que vous n'aviez pas forcément prévues.
Ouais, exactement.
Et justement sur votre roadmap, un petit peu, si tu veux nous en dire un peu plus. Enfin, tu as déjà évoqué différentes choses.
Ouais, alors notre roadmap, donc aujourd'hui, si vous téléchargez Mintsa, vous allez pouvoir donc le télécharger sur votre smartphone, tablette, donc iOS, Android. Vous pouvez le faire maintenant depuis la dernière version sur Microsoft HoloLens, sur Magic Clip, là qui arrive dans quelques jours, mais bon, enfin c'était accessible sur demande depuis plusieurs mois maintenant, on ouvre du coup.
Il y a beaucoup de gens en France qui ont des Magic Clip, enfin, des professionnels peut-être, j'imagine, mais.
En France, non, pas trop.
Vous êtes international, de toute façon, c'est pas que la France.
Ouais, on a surtout de la demande aux US, des universités américaines, par exemple.
Ouais.
Je pense à l'université de Miami, qui a un parc assez conséquent de Magic Clip, et donc qui, eux, sont très, très intéressés par Mintsa, pour déployer, en fait, les cours en réalité augmentée. Donc, eux, ils l'utilisent déjà. Oui, donc on en a beaucoup sur le territoire américain. Ils sont beaucoup plus équipés aujourd'hui.
Ouais, non, j'imagine.
C'est vrai que c'était compliqué avec ce qui se passe encore aujourd'hui. Enfin voilà, pas mal de partenaires, de clients qui voient leur activité un peu arrêtée du jour au lendemain avec chômage, beaucoup de chômage. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. En termes de roadmap, on va supporter. Si, il y a une super fonctionnalité donc on va faire pas mal de communication à la rentrée. C'est l'export vers Spark AR, donc qui va permettre en fait d'intégrer ton expérience créée avec Mintsa sur les réseaux sociaux de Facebook. Donc ça, c'est énormément demandé parce qu'on travaille avec pas mal de marques sur Instagram, d'influenceurs qui veulent en fait partager leurs produits, leurs concepts en réalité augmentée dans leur story Instagram. Donc ça, on a vraiment beaucoup de demandes là-dessus. Et on a l'export là qui va arriver en bêta la semaine prochaine. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc Spark AR, on aura également Snap Lens, donc qui est du coup l'équivalent pour Snapchat. Surtout l'export web. Là aujourd'hui, on peut afficher une expérience assez simple, mais on se donne comme défi pour avoir à la rentrée du coup cet export sur le web. On sera du coup la première plateforme identifiée en fait qui permet en no code de créer une expérience de réalité augmentée, réalité virtuelle et de l'exporter vers le web. Donc ça, c'est un peu notre objectif depuis le début, c'est de massifier en fait la distribution des expériences. Aujourd'hui, on peut le faire.
En termes d'accessibilité pour les gens, de juste à avoir ouvert son navigateur pour vivre l'expérience.
Là, ouais, c'est incroyable. C'est intégré directement depuis ton site internet, pas avoir à télécharger une application, parce que ça, justement, c'est un retour qu'on a beaucoup eu, qui est que nos clients ne veulent pas en fait avoir à faire télécharger en fait une expérience à leurs utilisateurs, notamment en secteur de la pub. On bosse avec pas mal d'agences justement qui s'occupent de créer des campagnes publicitaires de marques, etc. Et ils veulent que ce soit sur les réseaux sociaux, soit directement intégré site web. Et donc ça, on va pouvoir l'avoir à la rentrée et en bêta là dans les prochaines semaines. Donc vous allez pouvoir, n'hésitez pas vraiment à tester, à nous faire vos retours. On est toujours hyper ouvert. Enfin, Mintsa, on le construit avec nos utilisateurs. Encore une fois, c'est pas une techno dans son coin qui se développe et qui sort ensuite au grand jour. Non, c'est depuis 2016. C'est justement grâce à nos utilisateurs, grâce à nos partenaires, qu'on a pu développer une plateforme que je l'espère assez intuitive. Et c'est ce que tu me disais, donc je suis ravi que tu aies trouvé ça simple d'utilisation. Donc c'est vraiment vraiment l'objectif, et on est toujours avide de retour. Si vous êtes aussi intéressé, vous êtes une agence et vous êtes partant pour faire un test utilisateur aussi avec notre équipe UX et R&D, pareil, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, enfin, j'invite tout le monde à vraiment tester. Okay. Et après, en fait, notre objectif, c'est vraiment que les personnes se rendent compte du potentiel de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que c'est trop obscur, c'est trop compliqué de se plonger dedans. Et il y en a plein qui, au final, laissent un peu tomber et ne l'utilisent pas. Au final, il y a plusieurs études, notamment une étude de Adobe qui montre que 59% des créateurs aimeraient, enfin, proposeraient plus d'expériences de réalité augmentée, réalité virtuelle, si c'était plus simple d'utilisation. Donc, c'est assez énorme, et ça montre aussi notre marché. Notre marché assez incroyable, qui est le marché de la créativité informatique. Enfin, merger avec, du coup, ces nouvelles plateformes d'informatique spécialisée.
Ouais, non, c'est sûr que je pense que vous avez un bel avenir devant vous. Après, c'est un vrai challenge aussi d'arriver à démocratiser ça.
Un vrai challenge. Voilà.
Mais c'est un bon challenge. Alors, pour finir, j'avais deux, trois questions un petit peu plus larges sur le no-code en général, mais ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Enfin, une première question, c'est assez concret, en fait. Tu mentionnais tout à l'heure que le site web de Minsar était fait avec Webflow. Est-ce que vous utilisez d'autres outils no-code dans l'équipe?
On utilise beaucoup, je n'ai pas tous en tête, on utilise Zapier par exemple, on utilise Notion, on est mes grands fans du début de Notion, ça c'est incroyable comme plateforme, ça permet de faire tellement de choses.
Ouais, c'est clair.
On utilise, on utilise vraiment beaucoup, on utilise Miro, on a utilisé Gantt pendant un moment, Airtable, d'ailleurs on l'intégrera aussi dans Minsar. Pareil aussi, n'hésitez pas à nous faire vous qui écoutez, vous qui utilisez ou allez utiliser Minsar, à nous faire aussi vos retours de fonctionnalités que vous aimeriez voir dans Minsar. Notre objectif, c'est vraiment d'être intégré dans l'écosystème.
Ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est bien que tu le dises justement comme tu l'affiches comme une volonté. Je pense que tout ce qu'on voit vraiment dans l'écosystème no-code, c'est tous les ponts. Typiquement, Zapier, c'est un outil qui ne sert que à faire des ponts.
Ouais, c'est génial.
Mais il y en a plein d'autres. Mmh. Tout se développe avec chacun ses spécificités, etc. Mais enfin, nous, on trouve ça assez passionnant. Mmh. Mais c'est vrai que dans Airtable, par exemple, il y a un bloc qui permet de visualiser des objets 3D.
Exactement, ouais.
Et bon, moi honnêtement, j'avoue, j'ai jamais vraiment su quoi en faire.
Oui, et puis c'est pas leur cœur de métier.
Quand tu disais, ça, j'ai toujours trouvé que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi pas. Mais vous, c'est quoi votre
idée? Ouais, c'est pas plus utile. En fait, ce qu'on permet de faire avec Minsar, c'est d'importer du contenu existant, d'importer des flux de contenu aussi. Pourquoi pas un flux de Twitter directement dans ton environnement 3D. Et là, avec Airtable, on a eu justement, des utilisateurs qui nous ont demandé qu'ils aimeraient bien pouvoir importer en fait directement leur tableur dans leur expérience de réalité augmentée.
Mais les fichiers, par exemple.
Ouais, c'est ça, les fichiers, pouvoir les afficher ensuite en 3D.
Ok, non mais c'est intéressant parce que ça a un sens et ça donne du coup du sens au bloc d'Airtable qui permet d'afficher des modèles en 3D parce que là je peux imaginer si j'ai une expérience Minsar à faire par exemple, enfin une expérience réalité virtuelle augmentée, que je vais tout organiser avant même de lancer Minsar, je vais tout organiser mes fichiers etc. dans Airtable, enfin je suis un grand fan d'Airtable donc toute ma vie se trouve dans Airtable et là je pourrais mettre mes assets etc. et si je peux le connecter avec Minsar, ça a du sens parce que si je peux mettre tous mes assets dans Google Drive par exemple, ça c'est vous l'offrez déjà, mais sauf que je vais pas pouvoir mettre des infos, je vais pas pouvoir, alors que si je peux faire un tableau où je mets et le fichier et puis quand est-ce que je dois utiliser, je sais pas, mettre du texte,
exactement.
Et ça a du sens que dans Airtable, grâce au bloc qu'eux proposent, je pourrais aussi visualiser mes assets 3D, quoi. Pas juste voir le nom du fichier. Donc, là, tout ça me paraît cohérent. Tu vois, là, on a un espèce d'écosystème.
On est vraiment un peu, souvent, on nous appelle un peu la brique manquante de l'écosystème qui permet, en fait, d'unifier, tout ce qui permet déjà de créer. Mais de l'utiliser en fait pour en faire une expérience immersive interactive. Et Airtable par exemple, c'était pas forcément, enfin on n'y avait pas forcément pensé. Et c'est justement plusieurs utilisateurs qui nous en ont fait part et qui aimeraient bien le voir. Donc on sait que c'est dans la roadmap. Et ensuite, encore une fois, c'est un ticket qu'on accélère ou pas, qu'on priorise ou pas dans la roadmap de développement. D'où l'intérêt vraiment de faire vos retours sur les fonctionnalités que vous aimeriez et les providers parce que aujourd'hui on a Google Drive, Dropbox, on a Sketchfab et on a aussi CGTrader, il y avait toutes les plateformes utile. Ensuite, on voit en fonction de la demande si on l'intègre ou pas.
Ça marche. Alors j'ai une avant-dernière question, encore une fois un peu plus large, mais j'ai vu en fait que vous étiez assez engagé sur la question de la diversité dans la tech.
Oui, tout à fait.
Et ça m'intéressait d'avoir un peu ta vision sur comment les technologies no-code peuvent... qu'est-ce que ça peut apporter à ces questions, notamment, je sais pas, par exemple, est-ce que ça nous donne plus de chances d'avoir plus de no-codeuses que de développeuses, par exemple, est-ce que...
Bah oui, oui, complètement.
Peu, comment on peut résoudre ces choses-là, quoi.
Complètement. Bah, moi, je suis un peu l'exemple parfait dans le sens où je ne code pas, je ne développe pas, et ça m'a jamais passionné pour le coup la programmation. Même si je suis pourtant une fille de passion, passionnée par plein de choses, mais ça m'a jamais passionné. Et je pense qu'on est plusieurs femmes, pas femmes, dans cette position, et d'avoir des outils justement qui permettent de créer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, justement, bah, c'est un très bon point ça dans l'entrepreneuriat, parce que c'est toujours très compliqué d'avoir de trouver son CTO, on voit plein de super projets, de superbes idées, mais qui sont bloqués par ce frein technique. Et justement, utiliser ces outils no-code va permettre de pouvoir créer en fait ces projets sans code. C'est absolument incroyable. Après, la diversité, moi j'ai toujours vu la diversité comme une grande richesse. J'ai un père marocain, une mère française. Et déjà je suis issue de la diversité. Je suis une femme dans la tech, CEO. Donc déjà c'est trois mots un peu qui il y en a pas souvent. Vraiment dans la réalité augmentée, réalité virtuelle. Même si on en a de plus en plus. Et justement je trouve que c'est aussi un secteur assez inclusif. Je suis active dans pas mal d'associations, d'écosystèmes. Et je vois que vraiment la réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est très inclusif, notamment aux États-Unis. Et là en France ça commence à arriver. Et j'essaie aussi d'impulser ce mouvement, et c'est une très bonne chose. Pareil aussi pour les financements, les levées de fonds. On est beaucoup trop peu à lever des fonds. C'est 2% d'équipes complètement féminines qui lèvent des fonds et 10% équipes mixtes. C'est beaucoup, beaucoup trop peu. Donc, ça revient un peu de la question. Et ensuite, c'est diversité.
Mais c'est ça. Non, mais après, c'est aussi un petit peu en lien justement avec ces technologies no-code, etc. Et peut-être que, nous, la vision qu'on a un peu aussi, c'est que ça fait peut-être un peu tomber une barrière. Enfin, on sait que par rapport au code, il y a beaucoup d'autocensure, que je sais pas, les maths, c'est pas pour les filles, tout ce genre de bêtises.
Bah oui, c'est clair. Entend,
et donc, qui crée de l'autocensure. Et peut-être que justement, les technologies no-code se veulent plus accessibles, elles se veulent plus accessibles pour tout le monde dans l'absolu.
Oui.
Mais que ça peut justement mettre plus de gens dans la technologie qu'ils n'auraient pas fait avant pour diverses raisons, quoi.
Tout à fait. Surtout pour les générations qui sont déjà adultes, qui sont sur le marché du travail, c'est excellent du coup le no-code. Mais moi, je suis surtout partisane aussi de agir déjà dans les milieux écoliers, et de justement dire aux filles que elles peuvent être développeurs, elles peuvent être chefs d'entreprise. Il y a pas de barrière en fait. Et que justement, les maths, c'est génial. Moi, j'adore les maths. Hein. J'ai toujours aimé les maths pour le coup. Ça n'a pas été un gros mot, mais il y en a plein, oui, que justement ça rebute, et parce qu'on voit qu'un développeur, déjà on parle toujours d'un développeur, on met toujours en fait au masculin un peu l'informatique, les informaticiens, les codeurs, et justement ça va aussi passer par là, c'est de s'identifier, permettre aux filles en fait de s'identifier dans des figures féminines qui sont dans la technologie, qui sont porteurs aussi de projets dans ces nouvelles technos, soit dans la deep tech, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la blockchain, tous ces mots on comprend pas forcément, mais les rendre accessibles et permettre de créer des nouvelles vocations, de nouvelles filières. Donc ça, c'est ce que je fais avec Sista Starter. Je suis pas mal active, on a fait plusieurs événements dans des écoles, dans des collèges, justement pour expliquer un petit peu ce qu'est la nouvelle techno, enfin ce que sont les nouvelles technologies, les métiers qui existent. Et on voit que c'est une génération qui commence à prendre conscience de tout ça, à avoir de plus en plus aussi de rôle modèle. Et c'est génial. Et je pense que plus qu'un droit de s'exprimer, c'est un devoir. Et pendant plusieurs années, en fait, j'étais pas trop visible, j'en parlais pas, je cachais mon âge, j'étais vraiment un peu dans mon coin à développer le produit avec Thomas. Et c'est il y a un an ou deux ans, on m'a dit mais non, mais en fait, justement, il faut que tu t'exprimes, il faut justement que ce soit, vraiment exactement un devoir, et de pouvoir motiver plus de jeunes femmes à se dire moi aussi je peux, si elle, elle a pu le faire, si elle est sortie de nulle part, un petit peu, a pu voilà, monter sa boîte et avoir 25-30 employés maintenant, avec des super partenaires internationaux, bah voilà, en fait, je peux le faire. Et on a tous les outils aujourd'hui. Moi, j'ai tout appris avec avec Google. Enfin, j'ai tout appris sur le web. Et voilà. Et en plus, maintenant, avec les outils no-code, mais on se dit, mais où est la barrière maintenant? À part la barrière psychologique et sociétale qu'on est en train de changer.
Ouais. Bon, on espère que elles vont tomber petit à petit ces barrières.
On espère.
Alors. Dernière question qu'on pose à tous nos invités sur le podcast. Si tu avais un side project à faire, nous on aime bien les side projects en fait chez Contournement, on aime bien aussi, bon même si j'imagine que tu n'as pas beaucoup de temps qui te reste en dehors de Minsar, mais bon, on va dire un peu théoriquement, si tu travailles sur un side project avec des outils no-code, peut être Minsar aussi, hein, ça peut être une expérience 3D, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu as des idées comme ça de choses que tu aimerais faire en dehors?
J'aimerais faire plein de choses. Je pense que bah justement, enfin pour continuer sur ces problématiques de société, mais aussi climatiques, ce serait en fait créer des expériences qui permettent de mieux comprendre, de mieux sensibiliser en fait à ces enjeux sociétaux, environnementaux, de comprendre l'intérêt de justement de pouvoir, enfin de devoir, de prendre nos responsabilités. Je pense justement avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le fait qu'on peut mieux comprendre, mieux appréhender, mieux être sensibilisé à une cause, ce serait oui clairement faire des expériences en ARVR, du coup avec Minsar, hein, parce que je ne code pas, avec Minsar et voilà, et créer des expériences pour mieux sensibiliser à des causes qui me tiennent à cœur. Okay. Que ce soit la culture, super, j'ai déjà fait, mais aujourd'hui, ouais, vraiment pour l'environnement. On se rend compte que c'est. L'avenir n'est pas très beau.
Ça. Effectivement, ouais. Non, mais si la technologie peut aussi apporter à ça, justement, je pense que c'est important.
Elle doit, ouais.
Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te contacter? Je sais pas.
Oui, vous pouvez sur Twitter, Soraya Jaber, sur LinkedIn, Soraya Jaber. Partout, en fait, Soraya Jaber. voilà, surtout Minsar. Vous pouvez me contacter, oui, avec plaisir, je réponds avec plaisir sur LinkedIn, sur Twitter. Et Minsar, n'hésitez pas à télécharger, à nous faire votre retour, à nous noter sur les stores si vous nous aimez bien, à nous faire vos retours en MP si vous aimez pas et comment on peut s'améliorer et développer plus de fonctionnalités pour vous aider, vous, dans votre chemin de création 3D. Il y a plein de choses à faire, il y a encore plein de challenges, plein de. Voilà, je pense que l'avenir sera assez incroyable sur ce point de vue.
On espère. On va voir. En tout cas, on sera là pour le voir, j'espère.
Oui.
Bon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt, au revoir.